Bien, nous allons donc relire la fin du premier chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse 1, donc à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Quand on lit des commentaires sur le livre de l'Apocalypse, on remarque que l'un des points les plus controversés de ce livre, c'est de savoir si Jean, dans ce livre, décrit des événements qui se déroulent au présent, c'est-à-dire qui concernent Jean, qui concernent les églises auxquelles il s'adresse en Asie, et qui nous concernent, nous, aujourd'hui, qui lisons ce livre et qui le méditons. Ou si ce livre décrit des événements futurs, comme certains le pensent, des événements qui ne vont se dérouler que dans la période immédiatement, celle qui précède immédiatement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce contexte, le verset 19 est considéré comme un verset clé. Dans ce verset, Jean dit ceci: Écris donc, ou plutôt Jésus dit à Jean: Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Et beaucoup de commentateurs, surtout du siècle dernier, du XXe siècle, ont été influencés par le dispensationalisme. Alors, ce n'est pas le moment de passer trop de temps là-dessus, mais qu'est-ce que c'est le dispensationalisme? C'est un enseignement qui divise l'histoire en sept périodes, en sept dispensations. Et chaque période comprend une révélation spéciale de la volonté de Dieu, et chaque période se termine par un jugement de Dieu sur l'homme qui n'obéit pas à cette révélation. Alors, je vous donne les sept dispensations. Il y a l'innocence avec l'expulsion d'Éden, ensuite la conscience avec le déluge, il y a ensuite le gouvernement humain avec la tour de Babel, il y a ensuite la promesse avec la promulgation de la loi, il y a la loi qui se termine par l'exil. Il y a ensuite la grâce, le mystère ou l'Église, appelée différemment, avec le jugement des nations. Et finalement, il y a le royaume, le millénium. Et ça se termine par le jugement du grand trône blanc. Mais cette interprétation, elle pose beaucoup de problèmes. Et il y a ce fractionnement à l'excès pour trouver cette période, surtout dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a Cette interprétation n'accepte pas la révélation progressive. Elle va dire, par exemple, qu'il y a le rétablissement du royaume, d'un royaume juif, Et la nouvelle alliance, dans cette interprétation, n'est considérée comme étant une parenthèse. Alors que l'Écriture présente la nouvelle alliance comme étant l'alliance éternelle, comme étant la réalisation de ce qui a été annoncé dans l'ancienne alliance. Elle va donner, par exemple, va parler de l'espérance du peuple d'Israël et de l'espérance chrétienne. Elle va décrire ça comme étant l'espérance dans un royaume terrestre, avec la restauration du culte lévitique et les sacrifices, etc., avec un temple qui est reconstruit, complètement à l'opposé de ce que, par exemple, dit la lettre aux Hébreux, qui dit que ces choses n'ont été que des ombres de la réalité, et que la réalité est en Christ. Et il y a bien d'autres choses, bien d'autres problèmes avec cette interprétation. Mais voilà, dans l'esprit de ces commentateurs qui ont été influencés par le dispensationalisme, ce verset 19, donc, qui dit, où Jésus dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite », ces commentateurs disent que ce verset décrit les trois sections du livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, le chapitre 1 parle des choses que Jean a vues. Ensuite, les chapitres 2 et 3, les lettres aux églises, parlent des choses qui sont. Et ensuite, tout le reste parle de ce qui doit arriver, de choses qui sont du futur. Donc pour eux, l'essentiel, ce serait ce qui doit arriver ensuite. Mais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes avec cette interprétation, avec le dispensationalisme, et cette vue de ce verset 19 a aussi des problèmes parce qu'elle ne tient pas compte de ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Il se passe deux choses. Il y a à la fois les choses qui concernent le présent, et Jean, et le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de Jean, par la plume de Jean, s'adresse à la situation présente, s'adresse à l'Église du premier siècle qui est en face de la persécution, elle s'adresse à nous, dans nos situations présentes, et bien sûr, va parler aussi du retour de Christ. Et de plus en plus, va se concentrer sur les choses qui concernent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est important, parce que si on met l'accent uniquement sur le futur, comme beaucoup le font, la conséquence pratique de cela, c'est qu'on va mettre ce livre un peu de côté. Et parce qu'on va dire que ce livre, finalement, il ne nous concerne pas vraiment. Il parle des choses qui vont arriver dans un langage qui est codé et donc réservé aux experts. Donc, beaucoup de personnes ne lisent pas le livre de l'Apocalypse. Or, on a déjà vu dans notre étude de ce premier chapitre que ce livre est un livre qui a énormément d'intérêt pour nous, parce qu'il s'adresse à la situation présente. Il s'adresse à nous et il nous décrit ce monde et la situation dans ce monde comme Dieu la voit. Comme Dieu la voit au présent. Et nous avons vu que dans ce premier chapitre, ce livre nous amène à nous focaliser sur ce qui est le plus important. Et c'est la première chose sur la feuille. Il nous amène à nous focaliser sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Premier mot sur la feuille. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît exalté à l'apôtre Jean. C'est lui qui montre, qui règne sur son peuple. Il est le Seigneur de son Église. Il est le souverain sur toute l'histoire. Et il se révèle à Jean. Et donc, cette révélation montre que ce livre parle à notre situation, à ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ apparaît comme prophète, comme roi, et encore plus particulièrement comme sacrificateur. Et c'est ainsi que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre prophète, il est notre sacrificateur, il est notre roi. Il se tient, comme nous l'avons vu la dernière fois, au milieu des chandeliers. Ce qui souligne une réalité qui est encore vraie aujourd'hui. Jésus est au milieu de son Église. L'Église lui appartient. Il règne sur son Église. Il prend soin de son Église. Et nous avons Jean qui réagit à cette vision, qui tombe à ses pieds comme mort. Et il me montre l'attitude de celui qui comprend, qui saisit quelque chose de la majesté, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et la réponse de Jésus, elle est là. Il lui dit, ne crains point. Et en fait, cela nous montre comment l'Évangile agit, comment l'Évangile fonctionne. Tout d'abord, nous avons la révélation de Dieu et qui se fait connaître, qui révèle aussi notre état de pécheur, qui nous amène à l'humiliation devant lui. Et puis, il y a le réconfort que le Seigneur Jésus-Christ apporte. C'est quelque chose de très présent, de très actuel. Ce n'est pas quelque chose qui parle du futur. C'est quelque chose qui parle de la réalité actuelle. Et nous avons déjà vu dans cette vision du premier chapitre les acteurs principaux. Donc sur la scène de l'histoire, il y a bien sûr le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui est souverain, qui règne et qui triomphe sur tout. Il y a l'autre acteur principal, qui est l'Église. Christ se tient au milieu de son Église, il se tient comme Seigneur de son Église, comme celui qui règne. Et c'est là, en fait, que tout se passe. C'est là que tout se passe. L'Église est, comme Paul dit dans 1 Timothée 3,15, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et dans Éphésiens 3,10, il dit que c'est par elle, par l'Église, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église, c'est dans l'Église. L'Église aussi, comme nous l'avons vu la dernière fois, est appelée à briller de la gloire de Christ. Il y a le Fils de l'homme, il y a l'Église, mais bien sûr, il y a aussi Jean qui représente toutes les personnes que Dieu sauve. Et c'est sur Jean que nous voulons, regarder ce matin. Plus particulièrement donc dans les versets 17 à 19. Et tout d'abord, dans la vision, ou après la vision que Dieu donne à Jean, il y a la réaction de Jean. Il y a la crainte. C'est le deuxième mot sur la feuille. Il y a la crainte. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et si on ne connaît pas trop bien la Bible, on pourrait être surpris par cela. D'abord, Jean reçoit cette révélation spéciale du Seigneur Jésus-Christ, puis ensuite il tombe à ses pieds comme mort. En réalité, tout au long de la Bible, on voit que c'est ce qui se passe quand des personnes rencontrent réellement Dieu, quand elles ont une vision de sa majesté, quand elles ont une vision de sa grandeur, de sa pureté, elles ne peuvent pas rester indifférentes. Et cette attitude de Jean montre aussi qu'on ne peut pas être, qu'on ne peut pas rester ou avoir cette attitude d'être familier, de familiarité dans la présence de Dieu. Ceux qui sont amenés à voir la gloire de Dieu, que ce soit dans la vision comme Jean ici, ou que ce soit dans l'étude de la parole de Dieu, Dieu se révèle par son esprit à nous et montre quelque chose de sa grandeur. Ces personnes sont écrasées, troisième mot sur la feuille, écrasées par cette expérience, elles tombent aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà dit dans notre étude qu'il y a un lien très fort entre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel en particulier. Et on verra qu'en réalité, l'Apocalypse va expliquer toute la deuxième partie de Daniel, toutes les visions que nous avons en Daniel. Et Daniel lui-même a reçu une vision de Dieu, de la gloire de Dieu. Et il dit en Daniel 10, verset 9, « Je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et cette expérience de se trouver comme étant décomposé dans la présence de Dieu est décrite aussi par Ésaïe, dans la nuit où il a cette expérience de cette vision, lorsque Dieu l'appelle pour être son prophète. Et en Ésaïe 6, à partir du verset 1, nous lisons l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Comment est-ce que Ésaïe a réagi? Verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, les versets 1 à 5. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi est-ce que ces croyants, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, pourquoi ces personnes qui sont pour nous des exemples, sont-ils frappés, sont-ils comme décomposés quand ils voient quelque chose de la gloire de Dieu? Nous avons deux réponses essentiellement dans la parole de Dieu. Tout d'abord, il y a simplement l'admiration. Quatrième mot sur la feuille, l'admiration de la créature devant la révélation du Créateur. C'est par exemple ce que Job va dire à la fin de son livre, chapitre 42, les versets 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. » Job 42, versets 5 et 6, c'était une révélation énorme que Job a eue. Et c'est particulièrement frappant dans l'expérience de l'apôtre Jean. Il voit le Seigneur Jésus-Christ dans sa majesté divine. Rappelons-nous que Jean, c'est le disciple bien-aimé. C'est le plus jeune des disciples. Jésus avait pris un soin particulier de lui. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur la croix. En disant à Jean et en parlant de Marie, voici ta mère, et en disant en invitant Jean à prendre soin de Marie. Mais voilà, et on pourrait penser que cette vision de Christ serait comme des retrouvailles d'amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Mais non, il n'en est pas ainsi. Non, quand Jean voit la splendeur de la majesté de Christ, quand il se révèle à lui de cette manière-là, Jean ne peut pas rester debout. Il tombe à ses pieds. Mais la deuxième raison pourquoi on tombe aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, pardon, j'ai sauté un passage, on a un exemple. Dans la vie de différentes... Bien sûr, il y a des personnes dans l'histoire de l'Église qui ont connu ces réalités. Le croyant connaît quelque chose de cela. Mais il y a l'exemple de Martin Luther. Luther, qui, rappelez-vous, a été formé comme moine. Un jour vient le moment où il est promu prêtre et il a l'occasion de célébrer la première messe. Et Luther écrit qu'il s'approche de l'autel et il va prononcer ces mots en latin qui, selon le culte catholique, transforme le pain et le vin dans le corps et le sang de Christ. Bien sûr, une erreur. Mais voilà. Et il dit qu'il s'approche de l'autel, et là, il est comme figé, il est arrêté, frappé de terreur. Et il dit dans ses lettres, il dit, mais dans quelle langue dois-je m'adresser à une telle majesté, étant donné que tout être humain doit trembler même dans la présence d'un prince de ce monde? Il dit, mais qui suis-je pour lever les yeux et les mains vers la majesté divine? Les anges l'entourent, et à sa demande la terre tremble, et moi, un misérable pygmée, oserais-je lui demander ceci ou cela? Non, je ne suis que poussière et cendre, remplie de péchés. Et là, je parle au Dieu vivant, éternel et vrai. Bien sûr, les psychologues aujourd'hui ont eu le temps d'étudier le cas de Martin Luther et vont dire, vous ne serez pas surpris, que finalement Martin Luther était sans doute pas sain d'esprit, un peu dérangé. Mais en réalité, ils n'ont pas compris que lorsque la créature réalise qu'elle se trouve devant son Créateur, elle est écrasée par la manifestation de cette gloire dont elle prend conscience. C'est la première chose, donc, l'admiration de la créature devant son Créateur. Mais la deuxième raison, c'est la terreur, cinquième mot sur la feuille, la terreur que ressent le pécheur, dans la présence du Dieu qui est parfaitement saint. Ces croyants que nous lisons les biographies sont conscients qu'ils sont pécheurs. Ils se retrouvent non seulement dans la présence glorieuse de Dieu, mais en plus dans la présence sainte de Dieu qui est juge. Et quand on considère qu'un seul péché est mal aux yeux de Dieu, on peut aussi comprendre pourquoi Luther tremblait dans la présence de Dieu. Ceux qui sont amenés à voir la sainteté de Dieu à la lumière et aussi la nature horrible de leur péché sont en fait les seuls qui sont amenés à crier à Dieu pour recevoir sa miséricorde, parce qu'ils savent qu'ils méritent la condamnation. Ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ ne viendront jamais à Dieu sans s'être humiliés devant lui, parce qu'ils ont pris conscience de leur péché, de leur culpabilité. Et dans presque tous les cas de la parole, quand on voit ces personnes qui tombent aux pieds du Seigneur Jésus, c'est parce qu'ils sont conscients de leur péché. Ésaïe écrit, nous l'avons lu, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Job lui-même se condamne. Et il y a l'exemple aussi de l'apôtre Pierre, quand il prend conscience de qui est Jésus. Rappelez-vous, Pierre qui est pêcheur de profession, qui pêche des poissons, et il vient de passer la nuit à pêcher, et Jésus demande à monter dans la barque. Et ensuite, Pierre, le pêcheur par profession, mais aussi pêcheur comme nous, et Jésus qui se tient à ses côtés. Et après avoir enseigné à la foule, Jésus lui demande d'amener sa barque à un autre endroit pour y jeter ses filets. On peut imaginer Pierre se dire, ah, ces prédicateurs, ils pensent tout savoir, hein. Ils pensent tout connaître, ils pensent tout savoir où est le meilleur lieu pour pêcher. Mais Pierre va obéir, il va jeter ses filets. Quand il remonte ses filets, les filets sont prêts à éclater. Et cela va frapper Pierre. Et Pierre réalise en fait qu'il est en présence de Dieu lui-même. Et Pierre s'écrit en Luc 5, verset 8. Pierre oublie ses poissons et il tombe à ses pieds, aux pieds de Jésus. Nous disons en Luc 5, verset 8, quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre, il a vu quelque chose de la majesté du Seigneur Jésus-Christ, de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, et il est submergé par la réalisation que lui-même est pécheur et qu'il se tient dans la présence de Dieu. Nous aussi, nous devrions avoir une telle vision de la gloire du Seigneur Jésus-Christ et d'être remplis de terreur, rempli de crainte, être conscient de la nature horrible du péché qui est en nous, être conscient de la perfection de Dieu, de sa pureté, de sa majesté, de sa sainteté, être rempli de crainte quand nous réalisons que nous sommes si mauvais devant un Dieu si pur. C'est tellement différent de ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde évangélique. Aujourd'hui, on parle de Christ non pas avec révérence, mais avec familiarité. Ah, Jésus, c'est le copain. Bien sûr, Jésus est l'ami des pécheurs, parce qu'il est rempli de miséricorde, parce qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Mais nous devons aussi réaliser qu'en Christ, nous entrons dans la présence du Dieu qui est saint, qui est trois fois saint. Et tous les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, et même dans l'histoire de l'Église, nous montrent que la véritable rencontre avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est léger, mais ce n'est pas un moment, un simple moment où on se sent bien, qui va nous regonfler pour le restant de la semaine. Non, c'est véritablement d'abord un mépris de soi, de notre péché, une repentance, comme le dit Job, dans la poussière et la cendre, et un appel à la miséricorde de Dieu et à sa grâce. Voir la vérité qui nous concerne nous écrase. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans cet état d'écrasement. Le connaître, lui et sa gloire, comme j'ai dit, ce n'est pas simplement une affaire de divertissement mondain, mais c'est être émerveillé devant Dieu qui est saint, qui a horreur du péché, mais qui prend aussi plaisir à manifester sa grâce envers le pécheur. Et Ésaïe dira au chapitre 57 et au verset 15, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Il habite dans la sainteté, il habite dans les lieux élevés, mais il est aussi avec l'homme contrit et humilié. Ceci étant dit, donc la crainte de Jean, quand il voit cette vision, il tombe aux pieds du Seigneur Jésus. Nous avons deuxièmement le lieu donc de cette réaction de Jean et la réponse que Jésus apporte. Et sa réponse est le réconfort. C'est le sixième mot sur la feuille. Jean tombe aux pieds de Jésus. Cela montre qu'il y a en fait une différence. Il y a, quand on parle de la crainte de Dieu, on ne parle pas ici d'une terreur servile de ceux qui savent qu'ils sont sous la colère de Dieu. On ne parle pas de cette crainte qui pousse l'être humain à haïr Dieu et à se détourner de lui, à s'enfuir de lui. Non, on parle plutôt d'une crainte de révérence, d'émerveillement, une crainte qui désire que son nom soit glorifié, une crainte qui pousse le pécheur à se tourner vers Dieu, vers Christ, pour le salut. Et quand on parle dans ce sens, cette crainte de Dieu aux pieds de Jésus est en fait l'endroit le plus sûr, l'endroit le plus béni où, que nous pouvons connaître ici-bas dans ce monde. Pourquoi ? À cause du caractère de Jésus lui-même. Il est un sauveur abordable. C'est l'Évangile dans la personne de Jésus même. Dieu est saint, Dieu a horreur du péché, mais en Christ, il est aussi un sauveur. Il est un sauveur tendre et secourable pour ceux qui crient à lui, qui viennent à lui et qui lui demandent sa grâce. Et on le voit ici de deux manières. Tout d'abord, au verset 17, Jean écrit « Il posa sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. » C'est le septième mot sur la feuille. Il posa sa main droite. C'est merveilleux. Voici Jean Et il voit la gloire de Christ comme prophète, comme sacrificateur, comme roi. Il est frappé devant cette vision, il ne peut pas tenir debout. Il tombe à ses pieds. Et il ressent cette main qui se pose sur lui, la main de Jésus, la main de celui qui vient de révéler sa gloire, se pose sur son épaule. C'est un acte symbolique, mais un acte personnel. Dans les évangiles, quand on lit les guérisons du Seigneur Jésus-Christ, quand on voit qu'il ressuscite les morts, il est souvent question que Jésus pose la main sur eux et il les touche. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela parle de la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, dans un sens qui est personnel. Cela parle de la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit en particulier quand Jésus guérit les lépreux. On savait que si on touchait un lépreux, on devenait impur, mais pas le Seigneur Jésus. C'est sa pureté qui est si grande qu'il touche les lépreux et qu'il rend pur les lépreux. Ce ne sont pas les lépreux qui vont corrompre le Seigneur Jésus. C'est lui, dans sa pureté, qui les rend purs. Il transmet sa grâce, il transmet sa puissance pour le salut quand il ressuscite les morts. Là aussi, il va toucher les morts et c'est lui qui va donner la vie. Ce n'est pas les morts qui vont le rendre impur. Non, c'est lui qui donne la vie. Et si nous avons réalisé notre besoin de pardon, si nous nous sommes approchés de lui avec ce désir d'être lavés, si nous réalisons que finalement nous croyons en lui, que c'est son œuvre, c'est l'œuvre de son esprit dans notre cœur, tout cela en fait c'est la réalité, c'est la main du Seigneur Jésus qui se pose sur notre épaule. C'est cette œuvre personnelle qui nous amène à la foi en lui. C'est cette grâce qui nous donne la vie. On peut imaginer ce que ça voulait dire pour l'apôtre Jean. Jean qui est complètement décomposé à la vision de la majesté du Seigneur Jésus-Christ. Il décrit comme il tombe comme mort devant le Seigneur. Et voilà, il expérimente le Seigneur qui pose sa main droite, cette main de faveur sur son épaule. Et nous aussi, nous pouvons connaître cela quand nous réalisons que nous avons la faveur du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui se révèle à nous comme celui qui nous accepte et qui nous apporte sa grâce. Mais non seulement il pose la main sur Jean, mais il lui dit ces mots. « Ne crains point. » Huitième mot sur la feuille. « Ne crains point. » Et cette parole, à première vue, pourrait sembler bizarre. On pourrait dire, mais d'après ce qu'on vient de dire, on pourrait penser qu'il faut craindre Dieu, qui est pur, qui est saint, qui est majestueux. Et c'est vrai qu'il faut craindre Dieu, qui est parfait. Et nous sommes imparfaits. Mais le message de l'Évangile ne nous laisse pas dans la crainte. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Ne crains point ». En fait, nous avons ici la combinaison qui nous donne la dynamique du salut. La crainte du pécheur devant un Dieu qui est saint, qui est juste. Mais aussi le réconfort de celui qui vient devant Dieu en Christ. Parce qu'il sait qu'il est accepté en Christ. Quand nous sommes devant la majesté exaltée du Seigneur Jésus-Christ, nous ressentons le réconfort de sa main sur notre épaule qui nous encourage de ne pas avoir peur. Nous sommes émerveillés par sa grandeur, par sa majesté, mais nous sommes aussi attirés par sa grâce qui nous attire à lui. Il y a la crainte, mais il y a le réconfort. Qui nous amène au troisième point, donc les raisons, neuvième mot sur la feuille, les raisons pour lesquelles Jésus peut apporter le réconfort. Et Jésus va expliquer pourquoi il a l'autorité de pouvoir dire ces paroles, ne crains point. Tout d'abord, il dit, ne crains point, verset 17, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier et le dernier. Verset 17. On a déjà entendu cette expression quelque part. Verset 8 de ce chapitre. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et Jésus reprend les paroles du Père pour souligner que cette expression est vraie à la fois du Père, mais aussi du Fils. Il déclare son unité, son union avec le Père. Et c'est pour cela qu'il peut dire « ne crains point, parce qu'il est Dieu ». Dixième mot sur la feuille. Il est souverain sur toute chose. Il est le Seigneur de l'histoire. Il est le Seigneur du temps. Il est le Seigneur de la création. Il est Dieu éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'en tant que pécheur devant Dieu, en tant que créature devant le Créateur, tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le cœur de notre message. C'est le cœur de l'Évangile. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, nous n'avons rien. Mais avec lui, nous avons tout. Et comment cela se manifeste-t-il? Par exemple, quand je lis ma Bible personnellement, je vais d'abord venir aux pieds du Seigneur Jésus, lui demander de me parler. Quand nous nous réunissons au culte, comme ce matin, nous demandons la même chose, que le Seigneur parle par sa parole. Et parce que quand il parle, quand il se révèle, nous ne serons jamais inchangés. Quand il se saisit de nous, quand il pose sa main sur notre épaule, il nous relève avec puissance et il nous dit, ne crains point. Et Jésus est le Dieu éternel. Il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et parce qu'il est éternel, il n'y aura jamais un moment où nous serons dans sa présence sans qu'il se manifeste à nous. Il sera toujours là pour déclarer le pardon de nos péchés, pour montrer ses blessures qui ont acheté notre salut par la satisfaction de la justice de Dieu. Il sera toujours présent, il aura toujours la puissance dont nous avons besoin pour triompher de tout. Il sera toujours là pour nous défendre, toujours là pour nous réclamer comme les siens. Il est Dieu éternel, le premier et le dernier. Mais il dit aussi qu'il est le vivant, onzième mot sur la feuille, verset 17. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Il possède la vie, et il donne la vie. Et le message de l'Évangile, c'est bien plus qu'une moralité, ou qu'une morale, ou qu'une religion. C'est la vraie vie, c'est ce dont tout être a besoin. Nous n'avons pas besoin simplement d'un bon moment le dimanche matin pour nous ressourcer, non, nous avons besoin de vie. Et quand je me lève le matin, le conflit commence. Le conflit avec la mort, avec le péché. Mais Jésus dit, je suis le vivant. Et si nous sommes les disciples de Christ, nous ne pouvons vivre que dans une intimité avec lui, comme les sarments avec le cep. Nous dépendons de sa vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et cette vie, nous l'obtenons par la parole. Nous venons à la parole, pas seulement à un livre, mais à celui qui est la parole, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui parle dans ce livre. Pierre lui-même s'est écrié en Jean 6, 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est la même chose aujourd'hui. À qui irions-nous? Si ce n'est au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais la troisième chose que Jésus déclare, d'abord il déclare qu'il est Dieu, je suis le premier et le dernier. Ensuite, il déclare qu'il est vivant. Ensuite, il dirige le regard vers son œuvre victorieuse. Douzième mot sur la feuille. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En venant à la personne de Christ, on rencontre celui qui est capable de chasser notre crainte. Il nous dit, ne crains pas. Et en mettant notre confiance dans l'œuvre de Christ, nous voyons toutes ces choses qui nous faisaient peur être foulées aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous parle de son œuvre pour enlever nos craintes. Tout d'abord, il nous dit, j'étais mort. J'étais mort. Et c'est une manière, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il chasse notre crainte de la condamnation. 13e mot sur la feuille. Bien sûr, il fait référence à sa propre mort, qui est une mort de substitution. Il a fait l'expiation pour nos péchés. J'étais mort, dit le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes, nous en parlions tout à l'heure, sont tombées à ses pieds, en grande partie à cause du sentiment de leur culpabilité, de leur corruption devant lui. Et si nous ressentons cela, si nous ressentons notre corruption de notre cœur, la nature, le péché qui est en nous, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle, j'étais mort. Il fait référence, bien sûr, à sa mort expiatoire sur la croix. J'étais mort pour tes péchés. J'ai payé le prix. On peut le dire d'une autre manière, en parlant ici de deux grandes merveilles qu'il y a dans ce passage. La première merveille, c'est ce que Pierre décrit dans sa lettre comme étant ce qui pousse les anges à plonger leur regard dans ces choses. C'est que des pécheurs comme nous, corrompus, sales, coupables, on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On connaît notre cœur. On sait ce qu'on a fait et ce qu'on est capable de faire. Mais la merveille, c'est que des pécheurs comme nous sont acceptés par Dieu qui est saint. Et Pierre dit dans sa première lettre que les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. Ils sont émerveillés. Voilà des pécheurs que Dieu a aimés et qu'il a réconciliés avec lui. Voilà ces pécheurs qui sont maintenant lavés, qui sont glorifiés. Voilà les trophées de sa grâce. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que Dieu, qui est saint, qui est juste, qui est pur, peut-il accepter des pécheurs? Lui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est une merveille que les anges ne cesseront de contempler. Mais l'autre merveille, c'est que celui qui dit au verset 17 « Je suis vivant » dit juste après « J'étais mort ». Là aussi, les anges ont été émerveillés. Celui qui ne vit que par lui-même, qui ne dépend que de lui-même pour vivre, qui a la vie, qui est la vie, était mort. Mais c'est pour cela qu'il s'est fait homme. C'est pour ça qu'il s'est incarné. Il est devenu homme afin de mourir, afin de venir accomplir sa vie, donner sa vie en rançon pour sauver son peuple. C'est le message de l'ange à Joseph en Matthieu chapitre 1. Tu l'appelleras, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi ? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'incarnation était nécessaire pour le salut. Quelqu'un l'a résumé ainsi en disant « Le but de Noël est accompli dans le Vendredi Saint ». Le but de Noël est accompli dans le Vendredi Saint. Mais la puissance de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour chasser notre crainte de la condamnation est illustrée, encore une fois, dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs croyants qui nous ont précédés. Encore une fois, la vie de Martin Luther. Il écrit à son ami Philippe Mélenchon, ou Mélenchon, dans une lettre, il décrit une vision non pas du Seigneur Jésus, mais de Satan. Et il dit ceci, il rappelle à son ami Philippe Mélenchon toute l'angoisse quand il voit Satan dérouler un parchemin sur lequel étaient écrits tous ses péchés. Et Satan les énumérait les uns après les autres. Il se moquait de Martin Luther. Il lui disait, mais tu crois pouvoir servir Dieu, mais regarde ce que tu as fait. Qui crois-tu être pour pouvoir t'appeler chrétien? Et Martin Luther, à un moment, se ressaisit et dit à Satan, « Mais Satan, j'ai remarqué que tu n'as pas rempli tout le parchemin. Il y a encore de la place. Et je veux que tu écrives quelque chose. » Et il dit à Satan ce que le verset de 1 Jean 1, 7 dit. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Luther dit à Satan, « Tout ce que tu as écrit est vrai. Il y a encore d'autres choses à venir que tu ne connais pas et que Dieu connaît. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Voilà la force, voilà le témoignage, la puissance de la mort de Christ pour chasser la crainte de la condamnation. Un autre exemple, bien sûr, est celui de John Newton. Si vous n'avez pas lu le livre Affranchi, lisez-le, relisez-le. Un petit résumé de sa biographie, de sa vie. Un homme qui a vu une vie de débauche, impliqué dans la traite d'esclaves, un négrier, que Dieu a touché dans sa grâce et a fait de lui un serviteur. Bien sûr, on peut très bien l'imaginer, et lui-même le décrit qu'il a était en proie aux attaques de l'adversaire. C'est lui qui a, par exemple, écrit le cantique « Amazing Grace », mais qui a écrit d'autres cantiques. Et dans un de ses cantiques, il écrit ceci, je vais le dire en anglais d'abord et le traduire, il dit ceci, « Be thou my shield and hiding place, that, sheltered near thy side, I may my fierce accuser face, and tell him thou hast died. Sois mon bouclier et mon refuge, afin que, à l'abri à tes côtés, je puisse faire face à mon accusateur sans pitié et lui dire que tu es mort. » Voilà le témoignage. Voilà le témoignage de la mort, de la puissance de la mort du Seigneur Jésus-Christ qui chasse la crainte de la condamnation. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean et nous dit et nous ce matin, ne crains point, j'étais mort. J'étais mort pour tes péchés. Mais ensuite, deuxièmement, il continue et il traite une autre crainte. Il traite la crainte de l'échec, 14e mot sur la feuille, la crainte de la défaite. Nous regardons à nos vies et nous nous disons, ok, Dieu m'a pardonné en Christ, mais je suis une telle catastrophe. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre en tant que chrétien? Comment est-ce que je vais être un bon époux, une bonne épouse, un bon père, une bonne mère? Comment est-ce que je peux être utilisé par Dieu? Parce que je suis si faible, je suis si enclin à succomber à la tentation. Non, ne comptez pas sur moi, je suis une catastrophe. Et on voit la crainte de l'échec, de la défaite, parce que on connaît notre faiblesse. Jésus dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il fait référence ici à sa résurrection et la puissance de vie qu'il possède. Cette puissance de vie qu'il donne aux siens à cause de cette résurrection. Et Paul va décrire cela, par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er. Et au verset 18 à 20, Paul prie pour cette Église et il dit ceci, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'infinie puissance, la grandeur infinie de sa puissance, cette puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et cette puissance, le Seigneur Jésus-Christ la donne à ses disciples. Nous ne savons pas comment surmonter une tentation. Nous crions à lui et il nous donne sa puissance. Nous ne savons pas comment témoigner. Il nous donne sa puissance pour que nous vivions pour lui, pour que nous parlions de lui. Nous pouvons le servir, nous pouvons lui obéir, non pas avec notre force, mais avec la puissance qu'il nous donne par son esprit qu'il nous remplit. Pourquoi vivre? Pourquoi devrions-nous vivre dans la crainte? Dans la crainte de l'échec, puisque Jésus nous donne sa puissance pour vivre. Je suis vivant au siècle des siècles, nous dit Jésus. Ne crains point. Mais on peut aussi regarder à notre propre résurrection. Jean, quand il voit cette vision, il ne peut pas y faire face. Il tombe aux pieds du Seigneur Jésus. Il réalise qu'il ne mérite pas, qu'il est pécheur. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 2, Jean écrit ceci: « Nous savons que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous ne serons pas toujours comme nous sommes aujourd'hui. Le jour vient où nous serons aussi saints qu'il est saint. Et par notre résurrection, lorsque nous serons avec lui dans la gloire, nous pourrons nous tenir dans sa présence et contempler sa gloire sans tomber, sans chuter. Et c'est pour ça que Jean conclut au verset 3, 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La logique est la suivante: si ça c'est ma destinée, si je vais être complètement pur pour tenir dans la présence du Seigneur Jésus sans tomber, alors je vais vouloir le désirer dès maintenant sur terre. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux rechercher cette sainteté qui un jour sera la réalité. Mais la troisième chose, la troisième crainte dont Jésus nous délivre, c'est la crainte de notre ennemi le plus terrible, la crainte de la mort. C'est le 15e mot sur la feuille. Et Jésus dit: ne crains point, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui possède les clés est celui qui a le contrôle des portes. C'est celui qui a l'autorité sur ceux qui entrent et sur ceux qui sortent. Et en ayant vaincu la mort, le Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, par sa victoire sur le péché, règne en tant que vainqueur, en tant que souverain, sur la mort et sur l'enfer. Christ, par sa mort, a enlevé la condamnation. Par sa résurrection, il a la puissance de chasser la crainte, l'échec. Et il a renversé la réalité de la mort, afin que nous puissions vivre pour lui sans crainte, remplis de courage. Et pour les églises du premier siècle, qui font face à la persécution. Et pour nous aujourd'hui, dans ce monde si hostile, nous pouvons être encouragés par cette réalité et vivre pour lui sans crainte. Il nous délivre de nos craintes. Ne crains point. Pour terminer simplement ces dernières choses, nous avons considéré donc ce chapitre premier de l'Apocalypse. Nous voyons que la clé pour comprendre ce livre, ce n'est pas notre capacité à décrypter toutes les prophéties, savoir si elles font référence au présent ou à l'avenir. Nous allons bien sûr les considérer à la lumière de toute l'Écriture pour être bien guidés dans notre interprétation. Mais le point principal, le plus important, c'est de connaître, mettre notre confiance dans celui qui est le Seigneur de l'histoire, dans celui qui est le souverain de toutes choses, celui qui se tient au milieu des chandeliers, le Sauveur qui, par sa main droite, nous relève et nous dit « Ne crains point ». Apocalypse 1 est le clé et la clé de tout ce livre. Et que fait ce chapitre ? Il fixe nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. 16e mot sur la feuille. Il fixe nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. C'est une vision que nous avons besoin d'avoir et de garder dans nos mémoires, dans notre tête. Notre succès en tant que croyant ne vient pas de nos capacités à décrypter tous les mystères de l'Église, de l'histoire, mais elle vient de notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de notre relation avec lui en tant que disciple. Il est celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 5e verset de ce chapitre. Il est ce Fils de l'homme plein de gloire qui se tient avec puissance au milieu des chandeliers. Verset 13. Il est celui qui a été percé, qui revient avec les nuées et que tout œil verra. Verset 7. Il est aussi celui qui nous dit ce matin, ne crains point. Que nous ayons cette vision du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Que nous soyons encouragés par cette vision, même si c'est une vision terrifiante et qui nous humilie, mais que nous sachions qu'en Jésus-Christ, nous avons cette merveilleuse réconciliation avec Dieu. Parce que nous avons le Seigneur lui-même, qui, bien qu'il se révèle comme étant le Seigneur glorieux, souverain sur toutes choses, est aussi celui qui pose sa main sur nous et qui nous dit « Ne crains point ». Que Dieu nous aide à méditer cette parole et à nous réjouir dans ces réalités. Amen.